vilain héros.
Faire ça aussi.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Libertaire, 89.4 FM, la radio sans Dieu ni maître et sans publicité. La voix de la Fédération anarchiste, dans l'émission On a déjà traité le sujet d'ADOC, l'association des cinéastes documentaristes. Dans le studio aujourd'hui, Caroline Kim-Morange. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Et moi-même, Colline Beuvelet, à la technique Marcia Lacombe, Santiago Laurent et Anne Galland. Pour cette première émission de l'année, nous avons eu envie de parler de la genèse d'un film, et en particulier la période de son écriture. Les formations professionnelles à l'écriture documentaire et les résidences d'écriture sont des étapes qui permettent à un auteur de développer un projet, en définir les enjeux, le mode narratif et les choix de réalisation. On connaît l'USAS, la Fémis, le Moulin d'Andé, Mélionnec. Il y en a beaucoup. C'est un moment qui marquera la vie d'un film, comme celle de son réalisateur et de sa réalisatrice. Et ces formations sont souvent sélectives et plutôt onéreuses. Alors, il s'agit de bien les choisir et de savoir comment postuler. Pour en parler avec nous, nous avons invité Jacques Deschamps. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Et Sonia Benslama. Bonjour Sonia.
Bonjour.
Tous deux sont réalisateurs et réalisatrices, mais également formateurs, formatrices. Ils accompagnent les auteurs dans leurs projets. Jacques, je vais te présenter en quelques mots. Donc, tu es diplômé de l'IDEC, aujourd'hui la Fémis. Tu as écrit et mis en scène 3 longs métrages de fiction. Tu es également auteur et réalisateur d'une vingtaine de films documentaires. Tu travailles à la croisée des genres entre fiction et documentaire, notamment avec Don Quichotte ou Les Mésaventures d'un homme en colère en 2005. Ton avant-dernier film, Les Petits Maîtres du Grand Hôtel, est une comédie musicale documentaire sortie en salle en 2019. Et tu viens de terminer L'accroche et la chute, où l'on apprend à devenir journaliste de télévision en 6 leçons. Tu mènes parallèlement des activités pédagogiques en intervenant à la FEMIS, sur la formation continue, à Louis Lumière, au Master de l'USAS et aux résidences d'écriture documentaire de DocMonde. Caroline, est-ce que tu peux nous présenter Sonia?
Oui, bonjour Sonia. Tu es documentariste, donc tu as grandi à Paris où tu as étudié l'art et le cinéma à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. N'hésite pas à me corriger si je dis des bêtises. Pendant tes études, tu te spécialises sur la question du genre et de la représentation des femmes. Tu passes plusieurs années en tant que chargée de développement et de programme pour la télévision, où tu réalises aussi des films. En 2012, tu te lances dans ton premier long métrage qui s'intitule « Tout est écrit ». Et dont l'écriture se déroule en partie dans une résidence à l'USAS. En 2015, tu le réalises en Tunisie. Ton deuxième film documentaire, Mashtat, est lui aussi tourné en Tunisie. Il était en compétition internationale à Vision du Réel à Nyon et à la CIDE Cannes en 2023. Et aujourd'hui, tu développes un nouveau projet documentaire qui s'intitule 316 North Main Street, qui se déroule aux États-Unis. On va engager notre discussion autour de l'écriture documentaire en écoutant un premier extrait. C'est le début du film Lettres, réalisé par Alain Cavellier. On écoute ce petit extrait et on va vous demander ensuite de nous dire ce que vous en pensez et de nous en dire plus sur vous et vos parcours.
Ça pourrait être un écran dans une salle. Et là, ça n'est pas un, c'est une feuille de papier. Je suis metteur en scène de film et j'écris mon scénario. Donc, le film sera projeté sur cet écran dans des mois et des mois. Et pour l'instant, il faut que j'écrive. J'ai l'habitude de bouger. Mon travail, c'est d'être debout et d'être actif et de parler avec des tas de gens. En réalité, en ce moment et pendant des semaines et des semaines, il faut que j'écrive sur cette feuille de papier. Je ne suis pas écrivain. Et pourtant, je ne peux pas faire autrement. Il faut que j'écrive pour communiquer mes idées aux producteurs, aux distributeurs, aux techniciens, aux acteurs, à la commission d'avance sur recette, etc. Alors je coupe cette feuille de papier en deux. Je ne la coupe pas, je la plie en deux. Et puis, à gauche, je vais écrire le son, à l'image plutôt. et à droite le son. Description de l'image, le son, dialogue, musique, éventuellement bruit expressif. Travailler et téléphoner, je ne peux pas travailler et répondre au téléphone. Pourtant, je suis curieux, j'aime les gens, j'aime bavarder avec eux, ça me manque beaucoup. Mais il faut que j'arrête. Ou sans ça, j'y laisserai absolument toute mon attention et toute ma petite concentration, ma petite faculté de concentration. Donc je coupe jusqu'à ce soir.
Donc, nous venons d'écouter Alain Cavalier dans son film Lettres. Jacques et Sonia, que vous évoquent ces paroles, notamment par rapport à vos propres expériences d'écriture de films? Est-ce qui veut commencer?
Alors,
vas-y, Jacques.
Lettres d'un cinéaste, c'est une bobine 16 mm commandée à Alain Cavalier qu'il enregistre. En parlant, en même temps qu'il tourne, et c'est, il n'y a pas de montage. C'est une bobine de film, les plans tournés dans l'ordre. Il raconte ce que c'est que l'angoisse de ce temps qui est entièrement consacré à l'écriture, à l'invention, à l'apparition d'images qui doit décrire, écrire. Et c'est très difficile. Donc ça m'évoque, ça m'amuse beaucoup parce qu'il se met à nu, il s'amuse de sa propre situation qui est assez désespérante parce qu'il faut qu'il trouve, faut qu'il soit convaincant, faut qu'il arrive à financer un film. Et là, en plus, il s'attaque à Thérèse de Lisieux. C'est pas forcément un biopic de Thérèse de Lisieux, c'est pas forcément passionnant. Alors, c'est évidemment pas un biopic, c'est un film d'Alain Cavalier, c'est un film très singulier. Mais ce que je trouve formidable, c'est qu'il documente ce que c'est que cet état de solitude, de tension. De silence, de nécessité d'un certain silence. Alors il va jusqu'à nous dire que parfois il faut qu'il boive un verre de vin pour stimuler l'esprit, qu'il a besoin d'un réconfort. Alors il nous montre comment il découpe une orange, parce qu'il est maniaque obsessionnel, Alain Cavalier, ce qui lui permet de faire des très beaux films après, des portraits, portraits de femmes dans des derniers métiers, où il leur demande de montrer les instruments. Enfin, j'aime beaucoup la démarche documentaire d'Alain Cavalier. Et moi, c'est un film que je montre pratiquement à toutes les résidences, Lettres d'un cinéaste. Mm-hmm. Ça fait 11 minutes. Et il y a une espèce de... qu'est-ce que c'est faire un film? C'est être face à une feuille blanche. Il écrivait à l'époque. Aujourd'hui, c'est être face à un écran d'ordinateur. Mm-hmm. Et il n'y a rien de plus angoissant.
Mm-hmm. Donc, c'est quelque chose dans lequel, dans ta propre expérience de réalisation, tu t'es retrouvé finalement assez...
Ouais, j'ai pas d'élèves.
Comment appelles-tu les stagiaires?
Les stagiaires,
oui. Les stagiaires se retrouvent dans la même situation,
oui,
en fait.
Oui. Ouais. Après, ils ont la chance d'être à plusieurs et pas dans la grande solitude d'être chez soi face à son cher sujet ou son maudit sujet qu'on cherche. Ils sont ensemble et on est dans un temps qu'on partage. Mm-hmm. Donc là, ça change tout. Mm-hmm. C'est pas la solitude dont parle Cavalier, mais...
Et Sonia ?
Mais oui, cette question de la solitude, elle est intéressante parce que, en fait, avant d'avoir la chance de commencer vraiment le tournage, d'aller tourner, alors si on travaille avec des gens à l'image, au son, c'est vrai que c'est une activité qui devient, c'est une pratique qui devient collaborative. Donc mais avant ça, il y a vraiment une étape, effectivement, où la solitude est. Et parfois assez pesante. Et quand Cavalier là, parle de ce besoin de couper le téléphone, de ce besoin de se... Je pense que c'est vrai, on est très vite... Enfin, personne ne nous demande vraiment d'écrire, personne n'attend vraiment quelque chose de notre part. Je veux dire, ça vient de nous, un désir de film, un désir d'écrire quelque chose, ça part de nous et personne ne nous attend en quelque sorte. Donc il faut arriver à avoir une certaine autorité sur soi-même pour mettre de côté toutes les activités autres, toutes les sollicitations extérieures et pouvoir se consacrer à ce travail d'écriture qui peut être extrêmement frustrant. Enfin, je veux dire, moi, ça m'arrive de passer des jours et des jours à me dire « Ah, je vais écrire, je vais écrire, je vais écrire. » Puis en fait, j'écris pas. Et puis à un moment, je vais commencer à écrire et ça va se dérouler. Enfin, ça va aller très vite, mais j'ai du mal à prévoir moi quand est-ce que ça va être le bon moment pour écrire, quand est-ce que ça, quelles sont les conditions. Enfin, je commence à connaître un peu ma pratique, donc je le sens un peu plus maintenant, mais j'ai l'impression que ça reste quand même assez mystérieux, quoi. Il y a quelque chose dans l'écriture et dans le geste d'écrire qui est assez mystérieux. Et du coup, oui, évidemment, ce que dit Cavalier, ça. Enfin, moi, je le ressens tout à fait, quoi, vraiment.
Et toi, tu as fait pas mal de résidences pour écrire tes films. Est-ce que tu peux nous en parler de ton expérience en tant que stagiaire, du coup?
Ouais, alors moi, j'ai fait des résidences très différentes. Pour mon premier film, j'ai eu la chance d'avoir Jacques qui est face à moi comme formateur. Et ça a été une étape très importante à la fois dans l'écriture de ce film, mais aussi dans ma pratique à la fois de réalisatrice, mais aussi de mon désir de devenir moi-même formatrice. Enfin, vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là, de ce temps justement consacré à l'écriture, de ce temps de partage où en fait on se nourrit des projets des autres et on nourrit les autres de son projet. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui est assez formidable et qui est très très particulier de la création documentaire. Enfin voilà, moi j'ai vraiment eu l'impression de découvrir la création documentaire à l'occasion de cette résidence. Et je crois que ça a vraiment été une pierre très importante sur mon parcours, quoi. Vraiment, je crois que voilà. Après, j'ai fait d'autres résidences très différentes parce que l'USAS, il y a cette idée qu'effectivement on est je sais plus combien était, sept stagiaires, sept, huit, six stagiaires, donc voilà, avec beaucoup de discussions, beaucoup de travail ensemble à la fois sur des formes possibles. Donc ça c'est intéressant de déjà parler de forme et pas simplement du fond, mais aussi beaucoup sur ce qui est devenu très très important pour moi, c'est-à-dire les intentions. Enfin voilà, on a beaucoup travaillé là-dessus aussi avec Jacques. Et dans les résidences que j'ai fait par la suite, ça a plus été des résidences moins accompagnées, où il y en avait qui étaient carrément pas du tout accompagnées. C'est une autre forme de résidence et peut-être qui s'adresse aussi à un autre stade de sa pratique ou qui s'adresse à des gens qui avancent différemment. Voilà, j'ai fait des résidences, par exemple celle du Moulin d'Andée, où on a des consultations, mais qui sont pas forcément pendant le temps de la résidence, et où finalement la résidence du Moulin d'Andée, c'est plus un temps, on nous offre un temps et un espace un peu coupé du monde, dans lequel voilà, on prend le temps d'écrire son projet de film. Et alors moi, j'ai trouvé ça au final j'ai trouvé ça assez terrifiant. Je me suis rendu compte que j'étais très habituée à travailler par exemple chez moi et d'avoir mes tâches à côté, de savoir que voilà, j'allais faire tourner une machine de linge, que j'allais l'étendre, et qu'entre les deux j'avais ce temps là en fait. Je me suis rendu compte que ça m'aidait à me structurer aussi, ces petits moments du quotidien chez moi, et qu'en fait j'avais plus ça, j'étais libérée de toute charge mentale de tout. Et j'ai trouvé que ce temps s'étirait. C'était assez étrange à vivre. Mais j'ai vraiment senti que le temps s'étirait. Et du coup, c'est assez terrifiant de se retrouver face à son film avec tout le temps possible pour l'écrire. Et voilà, et de pas pouvoir remettre à plus tard. Il y avait quelque chose de très étrange.
Mais du coup, c'était plusieurs résidences pour le même film.
Non, j'ai fait des résidences pour mon premier film, j'ai fait une résidence à l'USAS. Pour un autre projet, j'ai fait deux résidences différentes, mais vraiment avec deux fonctionnements un peu différents. Après, j'ai fait une résidence aussi, peut-être qui serait intéressant d'aborder, c'était une résidence pour le coup aux États-Unis, donc pour un autre projet. Enfin, c'était une résidence qui venait avec une bourse. Et du coup, je me suis rendu compte à quel point c'était différent, ce travail d'écriture, cette phase préparatoire, enfin, à quel point tout était envisagé de façon très différente à l'étranger. Enfin, je crois qu'en France, il y a quand même un peu une spécificité du travail d'écriture pour les films. Et j'ai trouvé ça très intéressant, enfin, moi, de finalement de faire tout. Mais en même temps, j'ai l'impression dans chacune, j'ai pris des choses qui ont vraiment, qui ont à la fois nourri, bah, ce que je disais tout à l'heure, ma pratique de réalisatrice, et en même temps qui ont nourri aussi une approche de moi formatrice en devenir, quoi, vraiment.
Et toi, Jacques, est-ce que tu as déjà fait en tant que stagiaire des formations d'écriture ?
Non. Moi, je suis très jaloux des stagiaires que je rencontre parce que j'ai jamais fait de résidence et j'en aurais bien besoin. Alors, je profite aujourd'hui. Je fais plus de résidence tout seul. J'ai plus envie. Bon, peut-être je l'ai fait encore à l'USAS il n'y a pas si longtemps, mais j'aime beaucoup être en binôme avec quelqu'un d'autre. Et on est deux et on reçoit des stagiaires, on les accompagne. Moi, je me sens pas formateur. Je me sens accompagnateur, lecteur, premier spectateur, avec un imaginaire. Comment dire ? Je suis le premier à projeter un film dans ma tête à partir de ce qu'on me raconte, ce qu'on me fait lire ou ce qu'on me montre. Parce qu'on me montre parfois des images. Parfois, il y a des gens qui arrivent dans des ateliers avec beaucoup, beaucoup de matériel tourné, beaucoup de rush, mais qui sont totalement perdus. Donc, on est un premier spectateur d'éléments d'un film et on peut le rêver. Donc, j'aime beaucoup cette position, qui est un vrai privilège, de pouvoir rêver un film en trouvant une forme de disponibilité vis-à-vis de l'auteur qui est tracassé ou qui est désireux de trouver une forme mais qui ne la trouve pas, ou qui cherche le fond de son film et puis qui a peur, ou qui est trop impressionné par son propre sujet ou par la position que ça demande de faire un film. Et à deux, ça marche beaucoup mieux, parce qu'on est deux... Voilà. Alors parfois, je profite du fait que je fais une formation avec quelqu'un. Là, je pars demain soir en Touraine pour la formation qui est proposée par Cyclic avec Perrine Michel. Et je dépose un projet fin janvier. Je lui ai fait lire la version qui était prête. Et elle m'a dit, ça ne va pas du tout. Donc, sur le moment, j'étais un peu embêté. Puis après, je me suis dit, attends, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Puis ça a déclenché plein de choses. Mm-hmm. Donc, j'ai une petite formation grâce à la formatrice, comme tu dis, Sonia. Enfin, qui est l'autre accompagnatrice avec qui on est en duo, en binôme, là, dans un atelier. Bon, j'en profite. Mais ça me manque. En revanche, je n'irai pas au Moulin d'Andé tout seul écrire. Je suis allé, parce que j'accompagne des écritures d'autres personnes en dehors d'ateliers, dans des cadres de co-écriture. Donc j'y suis allé avec Uri Milstein, là, qui fait son prochain film. On est allé écrire là-bas. À deux, ça allait très bien. Mm-hmm. Mais tout seul, j'irai pas. Mm-hmm. Déjà, tout seul, écrire chez moi, c'est pas facile. Mais dans un lieu où je pourrais faire que ça, ça m'angoisserait. Mm-hmm. Je crois que
c'est vraiment angoissant. Hein. Enfin, c'est angoissant.
Alors, il y a une autre chose dont tu parlais, Sonia, c'est que tu disais personne n'attend n'attend de nous quelque chose. Alors, moi, j'écris parfois des films qu'on me commande, et mon dernier film n'est pas L'accroche et la chute, qui est un film là que j'ai entièrement voulu faire seul, et heureusement, ça a accroché auprès de la productrice Céline Loiseau de TS, qui m'accompagne depuis plusieurs films. Mais sinon, j'étais tout seul à vouloir le faire. Mais derrière ce film-là, j'ai eu une commande des scènes nationales et avec de l'argent, un financement de l'association des scènes nationales, il y en a 76 en France, et ils m'ont commandé un film, un long métrage, pour parler de ce qu'ils faisaient. Et bien l'angoisse d'écrire quelque chose qui va être lu par les gens qui le financent, vous savez pas ce que c'est, mais c'est horrible. Et j'ai déjà eu ça avant, parce que j'ai eu la chance de faire des films pour Arte à une époque où ils avaient des collections et... Alors, il fallait venir faire un film dans le cadre d'une collection, mais c'est une angoisse terrible aussi, d'être juste par rapport à ce qui est attendu. Et en même temps, d'y trouver soi-même un lieu de création où on peut être libre de la forme qu'on donne. Mais il faut être aussi en adéquation. Et moi, j'ai passé une sorte de grand oral à Avignon, parce que les scènes nationales, c'est des lieux de théâtre et des lieux de programmation et de production de spectacles vivants. J'ai passé une espèce d'oral. Alors, j'ai jamais fait de pitch non plus. Hein. Les pitchs d'ad hoc, je les connais, mais moi, j'ai jamais pitché un projet, j'ai jamais fait de résidence. Mais des films de commande, j'en ai fait. Et celui où je suis allé à Avignon, à l'Assemblée Générale, où il y a tous les présidents et directeurs des scènes nationales de France, et j'ai pitché devant eux mon projet pour eux, ça a été terrible. Il fallait que je raconte en quoi mon projet était formidable et allait répondre à la commande. Et j'ai fait un film très original à mes yeux, ça s'appelle Les Passeurs. Ça fait une heure et demie, mais on ne trouve pas de distributeur, mais ils passent dans les scènes nationales. Ils ont 26 salles d'arrêt essai en France. Donc c'est pas mal, je me balade encore avec ce film. Mais le fait de devoir aussi écrire pour quelqu'un n'est pas simple.
Mmh. Voilà. C'est un autre défi.
Ouais. Ouais. Mmh.
Alors, on va faire une petite pause musicale. On va écouter un extrait du film Mashtat. Donc, la musique qu'on trouve au générique de fin, film réalisé par Sonia Benslama. Donc ça, c'est une musique qui accompagne un mariage dans le film. On vous laisse profiter.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4 dans l'émission. On a déjà traité le sujet, l'émission d'Adoc, avec nos deux invités, Jacques Deschamps et Sonia Benslama, et nous parlons aujourd'hui des formations à l'écriture documentaire. Donc vous intervenez tous les deux dans des formations d'écriture documentaire aux profils différents et aux pédagogies différentes. Jacques, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu te prépares ? On voulait en savoir un peu plus sur la formation continue de la FEMIS, qui est assez réputée. On voulait savoir comment elle se déroulait et comment tu la préparais et quel type de profil, à quel type de profil de réalisateur ça s'adressait.
Ben, on la prépare, c'est-à-dire que moi je suis intervenu dans cette formation il y a très longtemps, avec Isabelle Marina et François Ninet, qui l'ont plutôt conçue avant que j'arrive. Puis j'ai pris le train en route. Après, je l'ai faite aussi avec Catalina Villard. Et là, depuis 11 ans, je l'ai fait avec Chantal Richard. On est tous les deux. Et en fait, on met au point à mesure quelque chose qui se transforme, parce que c'est plus adapté, parce qu'on s'aperçoit que au cours de la première résidence, c'est-à-dire qu'il y a 8 sessions ou 9 sessions, ça dépend des années, des budgets, des choses comme ça qui peuvent changer, mais c'est quand même c'est un peu la formation la plus longue qui est proposée, je crois la plus onéreuse si on n'a pas de droit à l'AFDAS, mais ça on parlera de ça après peut-être si vous voulez. En tout cas, pendant longtemps, à la première session, il y avait la minute lumière. C'est-à-dire que premier jour, premier soir, on l'a fait à Lussas aussi, vous prenez une caméra, du son, vous allez dehors, vous ramenez une minute, un plan séquence, fixe, sans zoom, sans décadrage, et on regarde ensemble. On l'a défaite, ça. On s'est dit, bon, c'est bien, mais aujourd'hui, les gens ont des caméras. Les gens ont des logiciels de montage, les gens développent déjà leur film. Pas besoin d'aller vérifier s'ils ont bien la notion de ce que c'est qu'un plan. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis au point un truc qui est comment entendez-vous votre film ? Écoute voir. Et alors ça veut dire qu'on commence, au lieu de commencer par de l'image, et une minute pour une image, on commence par une petite séquence sonore où chacun va former en 2 jours construire une petite séquence sonore qui fait entendre quelque chose de son film. Et c'est sans image. Mmh. Et c'est formidable. Et ça, donc, comment on prépare ? Ben, on prépare en trouvant des idées pour améliorer. On s'est aperçu que le premier jour, faire un tour de table où les 12 stagiaires, avec des profils très différents, il y a des gens qui ont déjà fait des films, il y a des gens qui ont 60 ans et qui ont été premier assistant des plus grands réalisateurs, puis qui veulent faire un film, leur premier film ou leur deuxième film. On a des gens qui ont fait du montage et qui ont 26 ans ou 27 ans, ou qui ont fait de la radio, ou qui ont travaillé chez Vice. Il y a des profils très très différents. C'est très ouvert. Hein. Mmh. Et on aime bien mélanger les âges, les expériences. Il y a des journalistes, des gens qui en ont marre de faire des sujets courts et qui veulent faire des sujets longs, mais qui ne veulent pas qu'on leur impose de travailler avec un papier, avec une voice-over, avec quelque chose. Non, ils veulent travailler autrement. Donc ils cherchent. Ils cherchent à défaire ce qu'ils savent faire. C'est pour ça qu'on est plutôt déformateur parfois, plutôt que formateur. Et l'idée, c'est que au lieu qu'on fasse un tour de table qui épuise tout le monde, où chacun se présente et raconte son projet oralement, on leur dit, venez donc avec 5 minutes d'un film que vous aimez ou qui vous intéresse pour parler de votre projet. Et du coup, les gens viennent, on projette 5 minutes d'un extrait de film, de fiction, documentaire, d'un film qui sort de où ils veulent, et qu'on projette pour évoquer quelque chose de leur sujet ou de la forme ou de la manière dont ils veulent parler de ce qu'ils vont faire. Et en fait, ça commence par une projection. Une projection d'un film, fait par quelqu'un d'autre. Alors parfois on a un peu de Godard, parfois on a un peu de Van der Koeken, parfois on a du documentaire, mais parfois on a un extrait de film, d'un film récent, parce qu'il y a quelque chose dont on parle dans le projet du stagiaire qui amène un bout de film qu'on regarde ensemble. Et en fait, bah ça on l'a amélioré, on l'a trouvé il n'y a pas longtemps, ça, avec Chantal Richard. Et on propose ça. Et puis après, bah, quand je vais dans une autre formation, on prépare autrement. Et sinon, à la FEMIS, c'est ouvert. Donc ça, je viens de le dire à plein de monde.
C'est sur
des profils très différents.
C'est
8-10 mois. Là, maintenant, la formule, ça commence en décembre. C'est-à-dire qu'on reçoit des dossiers pour être présélectionnés. On les reçoit en septembre. Et on reçoit les personnes qu'on présélectionne dans un oral, où on se rencontre. Qui a lieu, je crois, en octobre. Et la résidence commence en novembre et deuxième session en décembre. Et ça se termine en juillet. Et c'est une semaine par mois, pendant 8-9 mois. 3, 4, mais souvent 5 jours, où les gens viennent. Et dans les intersessions, ils travaillent beaucoup. Par exemple, entre la deuxième et la troisième, on leur dit « Allez donc filmer la parole d'un de vos protagonistes. » Et premier jour de la troisième session, on projette 12 fois 5 à 15 minutes de paroles filmées. On propose ça. Hein, c'est pas toujours aller filmer quelqu'un de face avec un micro et la personne parle à la caméra ou à la personne à côté. Il y a une forme à trouver sur... comment filmer la parole d'un protagoniste de son film. Voilà, c'est un peu ça. Et puis à la fin, il y a une commission professionnelle avec des gens qui viennent, ça rentre dans le détail si vous voulez, qui lisent et puis qui donnent un peu une feuille de route ou qui donnent un avis sur quelque chose qui est normalement un dossier écrit avec une esquisse tournée au cours de la quatrième session. Ils partent, ils ont du matériel s'ils n'en ont pas. La plupart du temps, maintenant, les gens ont leur propre matériel. Et ils tournent une forme courte qui n'est pas un teaser, ni un trailer, ni une bande-annonce, mais qui est un essai, qui est un brouillon, un petit essai, une petite forme pour montrer quelque chose de la mise en scène ou de la manière dont on va procéder. Et ça, c'est extrêmement précieux. Et dernière chose, avec Chantal Richard, on travaille très tard l'écriture. C'est-à-dire qu'on cherche des petites formes sonores. Ensuite, dans la deuxième session, on demande aux gens de venir avec un objet de leur film. Et avec un chef-op, ils sont par groupe de 6, ils travaillent à mettre en scène un objet de leur film. Et donc, on leur montre, par exemple, Lettre d'un cinéaste d'Alain Cavalier, ou quelque chose des portraits qu'il a fait, comme la Matelassière. C'est-à-dire montrer donc un objet qui sera constitutif de votre film. Et souvent, ça ouvre l'imaginaire. Et c'est tout de suite des formes travaillées filmiquement, c'est-à-dire que ce n'est pas du texte, ce n'est pas de l'intention écrite. On n'écrit pas d'intention, d'ailleurs. Nous, on repousse ça. Ou alors très tard. Parce que plus meilleures sont les intentions, plus il est difficile de trouver la forme de son film. On s'est un peu aperçu de ça, nous-mêmes. Moi, quand j'écris trop d'intentions, je ne sais même plus quel est l'objet du film. Donc, je le cherche. Et je le cherche en pensant à la forme. Donc, on est beaucoup là-dessus. Et puis, la sixième session, on part en résidence. On n'est pas à la FEMIS, dans les locaux prestigieux, machin. On est dans un lieu clos où on peut travailler, comme au Moulin d'Andée. Mais on est tous les 12, avec Chantal et moi, on est 14. Et il y a une lectrice qui vient au troisième jour pour lire ce qui est sorti déjà des trois premiers jours d'écriture.
D'accord. Une lectrice extérieure.
Je dis une lectrice parce que, oui, c'est Marie-Violaine Braquart, qui est une réalisatrice qui a fait des films qui nous intéressent beaucoup, et qui vient lire là où en est le projet, qui vient de sortir par l'écriture, mais quand même après six sessions. Et en général, elle a vu la petite forme précédente, celui de la parole.
D'accord. Et du coup...
C'est un travail d'étape comme ça.
Et tu travailles aussi donc, à l'USAS, mais peut-être Sonia, tu vas nous parler de l'USAS, mais tu travailles aussi à Cyclic.
Oui.
Et donc, par exemple, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, Cyclic, en quoi ça se caractérise?
Alors, Cyclic, je l'ai fait une fois il y a 2 ans, et c'était 5 jours en résidence, où ils étaient 6, j'étais tout seul, et on était dans le bar fermé au public du Grand Hôtel en face de la gare à Tours, et les gens rentraient chez eux, parce que c'était souvent des tourangeaux. Et c'était pas terrible, parce que les gens qui sont pas là juste pour travailler, qui viennent juste 8 heures, c'était... Et surtout, j'ai dit à la fin, c'est frustrant pour tout le monde, pour les stagiaires, parce que 5 jours, on peut regarder le projet, on peut lire ce qui est déjà écrit, on peut dire, essaye de développer plutôt ça, mais c'est 3 rendez-vous individuels, comme ça, entre eux et moi, et puis c'est fini. Alors, ils sont revenus vers moi, 2 ans après, en disant, qu'est-ce que tu proposes alors? Alors j'ai dit, ben moi je propose 7 fois 5 jours. Ils disaient, non mais ça on n'a pas les moyens. Alors c'est devenu 3 fois 4 jours. Et j'ai dit, je ne voulais pas le faire tout seul, qu'on le faisait à 2. C'est pour ça qu'il y a Perrine Michel qui le fait avec moi. Et ils sont 8. Et on a 3 fois 4 jours. On a eu 4 jours en décembre. J'y pars demain soir pour 4 jours. On va à Amboise. Et là les gens vont être avec nous. On habite ensemble. Enfin pas forcément dans le même lieu. Mais on prend nos repas ensemble. Chaque soir, on projette un film. Oui. Là, il y a Pierre Primtas qui vient projeter La photo retrouvée, qui est un très beau film, qui n'est pas encore sorti, et qui a eu l'aide de Cyclic, et qui donc vient aussi parler du système d'aide et d'accompagnement des films de Cyclic, qui est un film fait entièrement avec des archives, et c'est les archives de Cyclic qui a un fond formidable de films amateurs. Donc, on va aborder plein d'aspects à travers un film de ce que c'est qu'être aidé en région, d'avoir fait des résidences parce que Pierre Primtas encadre des résidences d'écriture. Je ne sais pas s'il en a suivi, je ne le connais pas. Je l'ai rencontré une fois, c'était à la fin de son film La Projection qui a eu lieu à la FEMIS. Et il vient le présenter et le dossier qu'il a écrit, et on a demandé que ce soit le premier dossier qu'il a déposé. Pas d'aide à la production, mais plutôt d'aide à l'écriture, qu'il les envoie aux stagiaires, qu'il l'envoie aux stagiaires. Et c'est ce qu'il a fait. Du coup, les stagiaires auront lu ce qui a été déposé pour avoir une aide. Ils vont découvrir le film en projection le 3e soir de notre résidence la semaine prochaine. Et ils vont rencontrer Pierre Primtas un matin pour parler de comment, entre ce qui est venu à son esprit et ce qui est arrivé jusqu'au film projeté, qu'est-ce qui s'est passé ? Et c'est un peu des études de cas. Alors c'est aussi ce qu'on fait à la FEMIS dans l'atelier documentaire. Il y a Anne-Catherine Witt, qui est productrice, qui accompagne les 12 stagiaires, qui chacun fait une étude de cas d'un film qui l'intéresse, pour savoir ce qui s'est passé entre l'auteur, l'autrice, et le producteur et la productrice, de l'idée qui germe dans l'esprit jusqu'à le film distribué, diffusé et édité au besoin, pour savoir toute l'histoire. Et du coup, ils partagent, ils mettent en commun 12 récits, 12 études de cas, ce qui complète une formation. Et c'est pas juste, il faut que je trouve mon film et que j'écrive le meilleur dossier pour avoir les aides. Il faut aussi savoir un peu comment les autres se débrouillent. Et comment marche l'économie du documentaire.
Oui, Sonia. Oui, parce que c'est intéressant de se dire aussi que cette question d'écriture, elle est un peu à double vitesse, parce qu'il y a l'écriture de son film, évidemment, il y a ce qu'on tournera ensuite, il y a voilà de partir avec une base assez solide ensuite pour se retrouver en tournage. Et envoyer tout valser, mais du coup avoir quand même cette base solide qui permet d'avoir un cap, quoi. Et puis il y a effectivement d'écrire pour des commissions, et on n'écrit pas de la même façon pour toutes les commissions, à toutes les étapes. Enfin voilà, il y a vraiment ce Et je pense qu'au début, ça, moi j'ai souvenir que ça a été assez difficile à comprendre cette mécanique. Enfin, j'ai mis du temps quand même à saisir ce qu'on attendait d'un dossier d'écriture. Et c'est assez compliqué à expliquer ce qu'on attend d'un dossier d'écriture. Maintenant, je le vois un petit peu plus parce que j'ai été lectrice aussi pour des commissions. Donc en fait, en lisant beaucoup de projets, on arrive à voir ce qui fait que il y a quelque chose qui nous saisit tout de suite à l'écriture dans un projet, même sur des sujets qui a priori nous intéressent pas beaucoup, et voilà, on se retrouve saisi par quelque chose, par une question, par une recherche, enfin, voilà, c'est mais au début c'est assez compliqué de comprendre ça, de comprendre ce qu'on attend. Je me souviens au début, moi, mes premiers dossiers, je délayais beaucoup, c'est-à-dire que j'allais chercher très très loin des trucs, voilà, donc faut arriver à trouver un peu les frontières de son dossier, jusqu'où on va, ce qu'on va convoquer pour ce qu'on va convoquer dans nos intentions pour raconter son film, à quel point on raconte des choses à quel point c'est lié à sa propre expérience, à quel point on va chercher des choses de sa propre expérience, mais évidemment c'est voilà, on se raconte, on se dévoile pas tout complètement dans un dossier non plus, mais voilà, c'est vraiment ces choses si sensibles, c'est très difficile de les comprendre au départ. Mmh. Et je pense qu'il y a vraiment... c'est une des étapes, je crois, importantes, moi en tout cas, dans mon parcours d'autrice réalisatrice, ça a été important de passer par ça, par cette étape où je tâtonnais un peu pour comprendre quels étaient les murs autour de ces dossiers. Enfin, mm-hmm. c'est un peu étrange, mais et je vois qu'il y a des dossiers avec des formes très très différentes qui m'intéressent à la lecture, des choses où je me dis oh là là, ça a l'air vraiment passionnant, et puis en fait ça fonctionne pas. Mmh. Et c'est ce qui est difficile aussi, c'est qu'on demande à des gens qui feront un film aussi de trouver une écriture dans un premier temps. C'est presque vraiment deux œuvres différentes qu'on demande aux gens, parce que on voit bien que des dossiers qui sont bien écrits, enfin voilà, qui sont agréables à lire, où on sent qu'il y a une maîtrise aussi, du coup c'est un peu étrange comme ça marche mieux, surtout quand on lit beaucoup de dossiers d'un coup. C'est sûr que des dossiers qui sont bien écrits, où l'écriture est concise, où on sent que on sait où on va, enfin avec évidemment des trous, des indécisions, tout ça, mais quand même qu'il y a quelque chose dans l'écriture déjà qui convoque des images, qui convoque des sons, c'est sûr que ça parle plus que des dossiers des fois extrêmement longs avec beaucoup beaucoup de détails, et où finalement dans lesquels on se perd. Mm-hmm. Ça, c'est...
Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se déroule à l'USAS, qui peut accéder et comment ça se déroule? J'imagine qu'un des buts, c'est d'écrire le dossier, un des buts, c'est aussi de penser son film, comment ça se déroule concrètement le stage à l'USAS?
Alors, je peux vous le dire, parce que je l'ai fait en tant que stagiaire, mais je l'ai fait en tant que formatrice encore, mais quand même, Jacques est peut-être plus au courant que moi. Corrige-moi, Jacques, si jamais je dis des bêtises. on sélectionne des projets sur des formes de dossiers assez courtes, mais qui présentent déjà des intentions, qui présentent une histoire, des personnages, un désir de film. Vraiment, avec un film et puis un peu ce qu'il y a derrière, quoi, d'où le film part. Et donc, c'est là-dessus qu'on sélectionne les projets. Ça permet déjà d'avoir une idée des gens qui présentent des projets, un peu de la nature des projets. Et puis, on sélectionne comme ça. On est, quand je l'ai fait, donc on était deux personnes à encadrer la résidence. Donc, on était deux, plus des gens de l'USAS, de l'école documentaire. Et puis, on a décidé comme ça. Et ça a été assez... on était assez d'accord. Enfin, il n'y avait pas de... Je crois qu'on était assez d'accord sur les projets.
C'est vous qui... C'est les formateurs qui sélectionnent les projets?
Ouais. Je ne sais pas si c'est dans le cas dans toutes les résidences, mais en tout cas, là, moi, c'était le cas.
À la FEMIS, oui.
Oui, aussi. D'accord. Oui, oui. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a des... Donc, dans les dossiers que vous recevez, est-ce que, par exemple, il y a des sujets où vous dites, mais ça a été traité 1000 fois? Est-ce qu'il y a des choses un petit peu qui peuvent être rédhibitoires? Est-ce que c'est plus la manière d'écrire ou le sujet ou le qu'est-ce qui peut dans les sujets? Comment vous sélectionnez finalement?
Il n'y a pas de prime au sujet parce que ça serait compliqué, ça. Non, c'est plutôt c'est quoi la singularité? C'est quoi la qualité cinématographique du projet? C'est-à-dire, qu'est-ce qui, là-dedans, fait que ça va être un film et pas un bon dossier d'enquête ou de recherche, mais quelque chose qui peut être aussi une très belle enquête et puis un très beau, très belle recherche, mais qui est une forme cinématographique, qui est de l'image, du son, du montage, qui est, si possible, du vivant, ou quelque chose qui fait que ça bouge là-dedans. Moi, j'aime bien le mot américain movie. Movie, c'est quelque chose qui est en mouvement. Et le mouvement qui est propre au cinéma, qui fait que ça bouge, c'est une forme qui, comme ça, peut tenir sur une partition, comme une timeline au montage, où de plus en plus, voilà, on pose notre film sur des bandes qui vont de 0 à 50 minutes ou à 90 minutes. Mais qu'est-ce qui bouge là-dedans et qui fait qu'on est emporté dans un mouvement? Moi, c'est très souvent, on dit, avec Chantal Richard, on dit aux gens, c'est quoi le mouvement de ton film? Déjà, c'est quoi ton premier mouvement, à toi? Raconte donc, enlève le mot de note d'attention et appelle ça par premier mouvement, qui est qu'est-ce qui t'amène à faire un film? Et plus on emmène un spectateur dans quelque chose qui regarde le cinéaste ou la cinéaste qui travaille, plus on peut partager son mouvement. On sait qu'il y a quelque chose qui est désiré, ou la rencontre, ou la découverte, ou la recherche d'un sens, d'une compréhension, d'un regard qui fait qu'au contact de ce qui est filmé, quelque chose a lieu devant la caméra, et devant les micros, ou le micro. C'est ça le cinéma, c'est du mouvement. Alors qu'est-ce qui va bouger là-dedans, qui fait que ça peut remuer quelqu'un, ou le toucher, parce que ça va l'amener à lui-même, le spectateur ou la spectatrice, à connaître un temps où, face à un écran, quelque chose lui arrive. Alors, on peut se demander qu'est-ce qui arrive au protagoniste. Et là, moi, j'aime pas le mot personnage dans le documentaire. On a déjà parlé, on voit ça de temps en temps sur Facebook. Guillaume Massard, il écrit, il s'énerve contre le mot personnage et tout ça. Donc puis j'imagine qu'à Doc, vous en parlez aussi. J'aime bien le mot de protagoniste parce que les personnes qu'on filme dans un documentaire, elles ont une vie avant, elles ont une vie après. Alors, le temps du film, ils sont un peu des personnages, ça c'est vrai. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait qu'ils vont traverser, vivre quelque chose, le temps du film, eux aussi, et pas juste l'auteur ou l'autrice, le cinéaste, la cinéaste qui fait son film avec ce qu'il peut, avec ce qui bouge devant, avec par exemple les bons, comment on les appelle en journalisme, on les appelle des bons...
Un bon sujet ?
Oui, les bons.
Les bons clients.
Les bons clients, c'est
voilà. Ça. Pas exactement. Seulement des bons clients, hein, quelqu'un d'un peu extravagant, super, on est content, il est dans la boîte.
De joli aussi, voilà. Quelqu'un de beau.
Eh bien non, on peut faire des films avec des gens qui ne sont pas forcément des bons clients, mais avec qui on va vivre quelque chose, on va partager quelque chose. Et ça, les spectateurs ou spectatrices, enfin moi en tant que spectateur, c'est ça qui m'intéresse. C'est de vivre quelque chose au moment où je vois un film. Je suis emmené dans quelque chose où je n'ai pas l'habitude d'être, où je ne reconnais pas, je ne retrouve pas tous mes repères. Je ne m'attends pas à ce qui va être dit. Donc moi, par exemple, je dis, non, ne faites pas d'interview. Faites des entretiens ou engagez la parole avec les gens, mais ne faites pas des interviews. Si vous faites des interviews, ça veut dire que vous tendez un micro et que vous présupposez qu'il doit y avoir une bonne réponse à la bonne question qui est posée. Et la personne qui est filmée, qui ne sait même pas où regarder d'ailleurs souvent, je ne sais pas si elle doit regarder la personne qui filme, la caméra, la personne qui est derrière qui tient la perche, ou s'il y a quelqu'un comme ça, ou qui doit être tout seul un peu démuni parce qu'il a un petit micro-cravate qui dépasse et qu'on voit.
Couper ses patates.
Voilà. Eh bien non, la parole comme ça, ce n'est pas si simple et ce n'est pas de l'interview. C'est un moment partagé, qui est vivant, où il y a de la parole et on peut se demander ce qui lui arrive au moment où il parle. Ben, il peut être très heureux, il peut être très content, que tout d'un coup, on lui laisse la parole. Quand Jean Eustache filme sa grand-mère, c'est magnifique, ça s'appelle Numéro Zéro, c'est un film en noir et blanc, on les trouve dans les... Je crois qu'on peut le trouver. C'est très très beau, parce que ce petit-fils qui est Jean Eustache, qui est déjà un mec assez d'un certain âge, il donne la parole à sa grand-mère d'une façon qui est formidable. ils boivent une bouteille de whisky, tous les deux de part et d'autre d'une table, mais c'est un moment inouï qu'on peut partager avec sa propre grand-mère en voyant la grand-mère du cinéaste, parce qu'ils ont quelque chose à partager. Ça, ils cassent la graine, quoi. Ils cassent ils passent un moment de parole où c'est inouï ce qui a lieu. Et ça arrive devant nous, un moment où il est possible que quelqu'un s'exprime d'une façon peut-être qu'on n'a jamais entendue. Il faut écouter. Pierre Perrault, il écoutait les bandes-sons, il montait ses films, c'est un cinéaste québécois que moi j'aime beaucoup, et je montre presque toujours pour la suite du monde dans des ateliers, que ce soit en Afrique, pour Africa Doc ou Doc Monde, ou au Québec même. J'ai fait une résidence avec Chantal Stenberg de l'USAS l'année dernière, on était tous les deux avec 8 Québécois, enfin 6 Québécois et 2 Acadiens. Et on leur a passé pour la suite du monde. Il n'y en avait qu'un seul sur les 8 qu'il avait vu. Mais ça, ils ont trouvé ça inouï. La façon dont des gens de l'île aux Coudres, qui sont des insulaires, des gens qui ont une vie à eux au milieu du Saint-Laurent, grâce à ce que Perrault vient leur souffler à l'oreille, qui est pourquoi vous pêchez plus le marsouin ? Et en fait, ils retendent une pêche au marsouin 38 ans après, de ne plus l'avoir fait pendant 38 ans. Et c'est les vieux qui le font avec les jeunes. Et tout le monde se met à parler du marsouin. Mais ça devient une bête lumineuse. Il a fait un film après qui s'appelle La bête lumineuse, Pierre Perrault. Il est très tendu vers l'idée de qu'est-ce qu'on va tendre avec notre caméra et notre son. Alors, il bénéficie du son synchrone tout juste en 62. Et il fait un film inouï pour moi. Parce que les gens, non seulement agissent devant la caméra comme un seul homme à aller lancer une pêche qui est magnifique à voir. C'est une science très précise d'aller planter des piquets dans le Saint-Laurent à marée basse. Et ils attrapent un marsouin, mais ils racontent en même temps tout de leur identité, de colons qui viennent après des Inuits qui étaient là avant eux, que Jacques Cartier a découvert en colonisant le Québec. Toute une histoire qui fait qu'en une heure et demie, on est transporté dans toute une histoire humaine, naturelle, vivante, avec un fleuve, avec un marsouin, avec des disputes sur... Non, c'est les gens de Saint-Malo qui ont amené cette pêche-là, parce que c'est des génies qui ont fait cette pêche. Et puis d'autres qui disent, mais non, c'est pas eux, c'est les Indiens qui ont fait ça. Les Indiens, c'est-à-dire ceux qui habitaient là avant. Et ça, c'est eux qui ont trouvé ça, c'était des génies. Ils se disputent sur qui a inventé cette pêche. Et nous, on la voit s'inventer sous nos yeux.
Oui, c'est un très beau film.
Et c'est parler. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font, ils le parlent. Ouais. Parce qu'ils ont un sens de la langue magnifique, et du geste et la parole. Et moi, j'aime bien que le documentaire arrive à convoquer le geste et la parole.
Donc de l'image et du son.
Oui. Ouais.
Est-ce que Sonia, tu irais dans le même sens pour le moment de sélection des projets ? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle justement d'avoir un côté vraiment cinématographique dans le dossier qui est soumis ?
Ouais,
est-ce qu'il y a d'autres choses ?
Oui, il faut qu'il y ait quelque chose qui en tout cas effectivement convoque déjà ce qui sera le futur film. Enfin voilà, il faut qu'on arrive à se projeter pas simplement dans un écrit, mais aussi dans ce qui sera vraiment un film. Donc c'est très important, et ça passe, je pense, par plein de petites choses, par simplement des comparaisons qui convoquent une image dans notre tête en lisant le projet. Enfin, voilà, ça passe par des tas de petites choses. Des fois, c'est un peu difficile de dire ce qui fait qu'un projet nous touche beaucoup, alors que voilà, on en est très loin. Et un peu dans le même sens, je crois que si on part du principe que un film doit traiter d'un sujet ou avec des personnes qu'on n'a jamais vues avant, je crois qu'on ferait pas beaucoup de films. Enfin, pour moi, il n'y a pas de sujet vu et revu. Il y a simplement une façon d'aborder une question, une situation. Enfin voilà. Et c'est ça qui fait la singularité d'un projet, plus que ce qui serait un sujet. Enfin, je vois même. Enfin voilà. J'ai du mal à parler de sujet en ce qui concerne des films. Ça parle de situations, de gens, de lieux, mais bon, de sujet, c'est un peu. Mais c'est drôle parce qu'en étant lectrice pour des commissions, notamment en région, on voit qu'il y a des, qu'il y a eu des traumatismes, par exemple régionaux, qui font que, bah, tout d'un coup, il y a plusieurs projets qui arrivent avec qui abordent une même thématique sous un angle différent, mais parce que, en fait, ça fait partie d'un traumatisme régional. Et on sait qu'à chaque commission, on va retrouver pendant quelques mois, peut-être quelques années, on va retrouver des films qui parlent de ça. Mais après, souvent, c'est tellement abordé par des angles différents qu'en fait, j'ai jamais l'impression de lire plusieurs fois le même projet. J'ai l'impression à chaque fois, par contre, d'avoir un peu plus de connaissances sur ce dont les gens parlent. Enfin voilà, d'avoir un peu plus de connaissances et du coup d'aborder les choses avec un peu plus de peut-être de compréhension.
Ça doit être difficile, en tout cas, de faire les choix, puisque c'est des formations très sélectives. 12 personnes, 6 personnes, ça ne doit pas forcément être très facile.
C'est pas si difficile.
Non ?
Parce que d'abord, il y a un malentendu. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un documentaire ? Il y a plein de gens, quand même, qui viennent avec l'idée qu'avec un sujet, avec une approche filmée, ce dont on parle... donner des éléments de compréhension aux spectateurs, comme les chaînes de télévision le font. Hein. Malheureusement, elles s'en tiennent un peu rigoureusement à ça. C'est-à-dire, faut informer le spectateur, faut lui donner toutes les infos, il faut être bien clair dans son propos, il faut bien qu'on sache les noms des gens et leurs fonctions. Donc, on met des titres sur l'image, on écrit en bas qui c'est, ce qu'ils font, faut le rappeler à chaque fois. Bon, mais pourquoi on fait ça ? On n'est pas obligé. On peut avoir des gens très vivants devant une caméra sans être obligé de connaître leur identité. On n'est pas des flics, nous,
oui,
les spectateurs.
C'est ça, leur identité officielle,
oui,
et professionnelle.
Et alors, plein de gens pensent que faire un documentaire, c'est documenter ce qui s'est passé dans la région ou faire une histoire du fleuve. Mais il faut bien donner le nom de la source et puis donner son débit. Et puis donner... Mais non, on ne fait pas des plaquettes pour les syndicats d'initiative ou les offices de tourisme régionaux. Parce qu'ils font des documentaires, mais à vrai dire, ils font des docus, ils font des docu-cus qui informent. Et tant mieux si il y a les moyens de donner à faire des films comme ça. Mais nous, ce qu'on cherche quand même dans des lieux d'écriture, c'est des écritures plus singulières que ça. C'est-à-dire où il y a un risque qui est pris d'aller faire quelque chose, pas forcément différemment de ce qui se fait, c'est pas la question, mais qui fait qu'il y a un regard qui est porté. Il y a une attention qui est portée au film qu'on va faire, qui engage la personne qui le fait dans un travail de création, de recherche, d'un regard qui cherche non pas à bien tout dire et rien oublier de ce qu'il faut dire ou ce qu'il faut savoir. C'est pas la question de ce qu'il faut savoir. C'est de ce qu'on cherche là-dedans pour que par le cinéma, par une forme comme ça, se trouve... une situation qui est très intéressante à regarder, à écouter. Donc il y a plein de gens qui font des films personnels, de plus en plus il y en a. Alors parfois on est très embêté parce qu'effectivement pour une sélection il peut y avoir 3 films qui nous racontent ce qu'a vécu le Liban, ce qui s'est passé à Beyrouth. On a eu ça l'année dernière avec Chantal Richard et la personne qui encadrait qui était responsable de l'unité documentaire à la FEMIS. Il y avait 3 projets sur le Liban. Si on prenait les 3, il y avait un truc qui n'allait pas, parce que sur 12, on en a pris 2 quand même, parce qu'il y avait 2 projets qui nous semblaient extrêmement forts, qui n'avaient rien à voir avec l'un avec l'autre, mais qui parlaient de ça. Cette année, sur les 12, je crois qu'il y en a 8 qui sont des histoires de famille. Mais ce n'est pas nous qui nous disons qu'il faut absolument traiter la famille aujourd'hui. C'est les meilleurs projets qui nous arrivaient. Sur les 12, il y en a 8 qui parlent d'histoire de famille. Pourquoi ? Parce qu'il y a une génération de gens qui s'interrogent sur leurs grands-parents. Il y a eu la guerre 39-45. On a des gens qui sont des petits-enfants, par les histoires de mariage des parents, etc., qui peuvent avoir été officiers de la Wehrmacht. Il y en a d'autres dont les grands-parents ont été fusillés au Mont-Valérien en 1944. Et ça a traumatisé les parents. Ou la mère, ou il y en a d'autres qui ont des histoires avec le FLN et la guerre d'Algérie.
Ouais,
donc,
beaucoup, hein.
Évidemment qu'à cette génération-là arrivent des projets où on veut savoir quelque chose qui n'a pas été dit, qui n'a pas été transmis. Et ce sont des films c'est pas des films familiaux, c'est des films politiques, c'est des films nécessaires, parce que quelque chose dont on n'a pas parlé pendant deux générations, maintenant on va commencer à en parler. Mmh. Et c'est formidable parce qu'on voit des gens qui arrivent avec juste l'envie de faire un film sur cette histoire-là qui leur a pas été transmise. Mmh. Et s'engage une parole, s'engage une recherche qui fait que moi, en les lisant, en les voyant se développer, les projets écrits, mais d'abord cherchés avec des petites formes, un film sonore, ou, enfin une bande sonore, puis un objet mis en scène, et puis un échange de paroles, tout d'un coup arrivent des éléments d'un film qui sont passionnants à suivre. C'est une place formidable hein, d'encadrer des ateliers, parce qu'on voit naître des projets qui vont donner lieu à des films passionnants. Hein. Mmh, mmh. Mais ce n'est pas le sujet familial qui nous apporte, c'est ça qui arrive, et mmh, ce n'est pas si difficile à...
D'accord.
Parce qu'on voit que les gens sont très très engagés dans cette recherche. Mmh. Très vite, on peut déceler que quelqu'un fait un film parce qu'il s'est dit, tiens, il y a une formation qui m'intéresse, mais il ne faut pas que nous, on ait plus envie que la personne de faire le film. Il faut qu'on sente que la personne s'engage dans un travail qui est absolument important pour elle.
Mmh. On va écouter, pour poursuivre, on va y faire une petite pause, on va écouter un extrait de Chantal Akerman par Chantal Akerman, un film de 1996 qu'elle a réalisé pour Cinéma de notre temps. Et qui pose justement tout plein de questions sur comment faire un film.
Première tentative d'autoportrait, lecture. Je vais commencer par vous demander de la bienveillance et vous prier, comme a dit quelqu'un, de m'accepter comme une narratrice sujette à caution. Ce quelqu'un a aussi dit, je perçois avec découragement l'artifice de la sincérité. Je suis donc très découragée. On a toujours un peu peur ou très peur avant de commencer. En anglais, et j'adore cela, ça s'appelle avoir le butterfly. Et je crois qu'avec le temps qui passe, la peur grandit. Mais faire ce film-là, faire un film sur moi, cinéaste de notre temps, c'est pas que j'ai peur, c'est que je me retrouve devant un trou noir. Pire qu'entre deux films, quand je ne sais pas encore quel sera le suivant, et que quand je me retourne et que je vois les autres, je me dis, comment j'ai pu faire cela? Ce n'est pas vraiment moi. C'est quelqu'un d'inconnu qui lui a pu. Je n'arriverai plus à en faire d'autres. Je ne sais plus ce que j'ai envie, je n'ai pas envie, laissez-moi tranquille. Mais tout le monde me laisse tranquille à part moi-même. Et quand on me demande quel est mon prochain projet, c'est juste par pure curiosité. Pas parce qu'on a envie que je fasse quelque chose. Et moi j'ai mes habitudes. Et les habitudes, on a du mal à s'en passer, surtout les mauvaises habitudes. Et je suis condamnée à faire encore et toujours. Saute au-dessus du trou et ne te retourne pas, sinon tu seras transformée en statue de sel. Et puis, j'ai signé un contrat. Et un contrat, c'est un contrat. Sur un contrat, il y a une date de début, une date de fin, des clauses, de l'argent qui va être dépensé. Il y a un échange. Un peu de Chantal Akerman par Chantal Akerman, cinéaste de notre temps, contre un peu d'argent. Donc, j'ai les pieds au mur. J'essaie toujours d'honorer les contrats. Là, dans ce film-là, je me dis, qu'est-ce que j'ai envie de laisser voir, entendre, comprendre de moi? Et aussi, qu'est-ce qui intéresserait les autres? Mais quels autres? Qui sont ces autres-là? Je ne sais pas ce que j'ai envie de laisser voir, entendre, comprendre de moi. Et puis, je n'ai plus envie de me montrer, en me montrant moi, comme je l'ai fait bien des fois avant, quand je jouais dans mes films, au contraire. C'est sans doute une question d'âge.
Sonia, on revient donc dans... Vous êtes bien sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu ni maître, ni publicité. Dans l'émission, on a déjà traité le sujet, et on parle des résidences d'écriture. Sonia, est-ce que tu peux nous parler de la méthode? Moi, comme j'ai fait l'USAS, j'ai été assez convaincue par la méthode de travail, justement quand on a une situation, une envie de film, comment on s'y prend et pour faire sortir ce qu'on a envie et structurer sa pensée. Et à l'USAS, on avait fait des exercices que j'avais trouvé convaincants.
Je pense que quand on arrive dans une résidence d'écriture, c'est un peu compliqué parce qu'on a déjà commencé à écrire quelque chose, on est dans une drôle de situation. On a commencé à écrire quelque chose, mais qui devait déjà convaincre des gens de nous sélectionner. Et en même temps, c'est très embryonnaire. Et en même temps, on vient dans une résidence parce qu'on a besoin aussi d'avoir un dialogue avec des gens, d'avoir un peu des repères, d'être accompagné, d'être aidé dans cette démarche. Moi, je crois que au début, j'aime bien l'idée de déconstruire un peu les certitudes qu'on a sur son projet, les quelques certitudes qu'on peut avoir sur son projet, et notamment sur la forme, parce que souvent on arrive avec une idée de forme qui est à la fois un peu qui en serre un peu trop, qui limite un peu le film, le projet, et qui fait appel à des outils où c'est presque difficile de dire dès le début si on va faire appel à une voix off ou pas. Il y a des projets où c'est une espèce d'évidence, voilà, d'avoir une voix off, mais il y a des projets où par exemple on l'évoque parce qu'on sent qu'on a besoin de raconter quelque chose et qu'on n'a pas d'autres idées, pas d'autres outils, voilà. Donc moi j'aime bien l'idée de déconstruire un peu ce avec quoi on est venu, c'est-à-dire de remettre un peu tout à plat et de se dire bon bah alors dans toute cette matière, qu'est-ce qui est essentiel, vers quoi on a envie d'aller. Et en plus, et je crois qu'on a vu cette discussion, moi je trouve qu'on sent beaucoup les choses qu'on a mises sous le tapis. Enfin, les lecteurs et les lectrices le sentent, en fait.
L'éléphant dans la pièce.
L'éléphant dans la pièce. C'est-à-dire qu'il y a des zones où, en fait, on sent qu'il y a des choses qui sont derrière et qui ne sont pas formulées en même temps. Et on a l'impression qu'en même temps, il y a des choses qui se construisent autour de ça. Et que ça ne veut pas dire que ce sera dans le film, mais en tout cas, d'être conscient ou consciente que la personne qui lit le voit, le ressent.
Mais en tant que stagiaire, c'est complètement inconscient. Parce que nous, dans notre groupe de six stagiaires, aucun n'avait conscience de ce que racontait son film pour un spectateur. Enfin, Du coup, tu nous as aidés à faire sortir en fait les choses de sous le tapis.
Quoi. Ouais. Mais moi, j'aime bien cette idée de déconstruire les choses. Enfin, voilà, d'un peu tout détruire avant de reconstruire peut-être un peu différemment que l'idée qu'on en avait au départ. En fait, si on arrive dans une résidence et que finalement on part exactement dans la direction dans laquelle le dossier de départ partait, en fait, c'est presque un peu dommage. Enfin, surtout quand une résidence comme l'USAS où il y a quand même le temps. Alors vous, je pense que ça vous a semblé, ça semble toujours assez court au final, même si c'est 6 semaines mises bout à bout. Mais voilà, il y a quand même le temps, en tout cas, de déconstruire les choses pour les reconstruire un peu différemment. Et puis aussi déconstruire un peu ses certitudes. Enfin, je crois que ça, il y a quelque chose d'important là-dedans.
Oui, ça passe, je sais que Jacques, toi tu fais pareil, ça passe par le visionnage d'énormément de films aussi sur le même sujet. Enfin, à l'USAS, on arrive et on nous propose beaucoup de films qui traitent à peu près des mêmes personnages, des mêmes sujets.
Oui, ou pas du tout.
Ou
pas du tout.
Tu veux dire des films très différents.
Ouais, des films très différents, avec des formes très différentes. Et ça, moi, c'est aussi que j'en garde un souvenir de ma première résidence où ça avait été très important, ces discussions autour des films et de se dire... des films qui n'ont rien à voir avec le sien, et pourtant il y a quelque chose dans la forme qui tout d'un coup nous déclenche une petite cloche dans la tête et nous dit ça, ça parle de ton film aussi. Ça a beau être géographiquement vraiment très loin de... Voilà, il y a quelque chose qui... Parce que c'est intéressant de réfléchir au film avec ce qu'on veut dire, mais aussi avec les outils du cinéma. Qu'est-ce qu'on utilise des outils du cinéma pour raconter ce qu'on veut raconter. Et je trouve que de regarder des films, ça, moi, j'ai vraiment un souvenir. Ça avait beaucoup enrichi ma pensée et ma propre réflexion sur mon film, sur les films des autres. Voilà, il y a quelque chose. Se posait vraiment la question de la mise en scène, des outils du cinéma pour raconter une histoire. Et ça, voilà, de prendre des exemples de films qu'on aime, qu'on n'aime pas, mais en tout cas qui empruntent
qui
une forme,
pistes,
voilà,
ouais,
qui donne des pistes et de voir comment chacune aussi rebondit sur ces films.
Et à l'USAS notamment, il y a un moment où vous demandez d'aller faire des repérages. Je ne sais pas si c'est le cas à la FEMIS, mais est-ce que vous donnez des conseils? Est-ce qu'on vous demande des conseils? Comment vous... Repérage, qu'est-ce que ça veut dire en fait quand vous envoyez les stagiaires faire des repérages? Est-ce que ça veut dire juste aller rencontrer les protagonistes, personnages, visiter les lieux, être là, être présent? Parce qu'il faut qu'ils filment. Enfin voilà, comment est-ce que vous...
Ça peut vraiment prendre des formes très très différentes selon le travail, mais en fait l'idée c'est quand même d'aller un peu explorer, trifouiller ce qu'on a dans la première partie soulevée. Donc voilà, sans Et là encore, c'est un peu compliqué parce qu'on a une étape où on ne sait jamais en documentaire si on est en train de tourner, si on est en train de... Voilà, donc il ne faut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs pendant les repérages, mais en même temps, il faut quand même explorer, tester un peu des choses, voir un peu s'il y a des choses, notamment de forme, qui émergent. Enfin, c'est... Mais je pense que ça dépend aussi beaucoup des projets, du stade où les gens en sont. Enfin, je crois que ça, pour le coup, c'est très différent selon les gens et selon les résidences.
Mm-hmm. Oui, pour chaque projet, il y a une chose à aller chercher ou à travailler qui, c'est pas forcément des repérages, ça peut être des recherches, ça peut être poursuivre. Élise Dartigue, elle a fait un film qui s'appelle Sri Landaise. Elle avait été faire un voyage au Sri Lanka où elle savait qu'elle était née et où ses parents, dans les Landes, des Français, du Sud-Ouest, sont venus l'adopter quand elle était un bébé. Mm-hmm. Donc elle a même les films Super 8 ou peut-être en vidéo du moment où ses parents adoptifs la filment bébé dans l'orphelinat où elle est. Mm-hmm. C'est pas un orphelinat, qui est une agence. Et en fait, elle fait un voyage et puis elle va demander à des gens, vous savez, et elle connaît le nom de famille de sa mère biologique. Et en fait, elle trouve sa mère biologique. Donc, quand on fait des repérages, parce qu'elle veut faire un film avec cette histoire, qu'elle a une productrice même, qui se dit, il faut l'accompagner. Donc elle lui dit, fais donc l'atelier de la fémis, ça peut t'accompagner sur un temps. Quand elle part en repérage, en fait, elle part retourner voir sa mère biologique et ses sœurs, ses grandes sœurs, et sa famille. Mm-hmm. Mais elle a grandi dans les Landes, quoi. Elle a été à Bordeaux en classe, elle a fait du journalisme, elle a fait... Voilà. Mais c'est un truc qui lui arrive dans sa vie. Ses repérages, c'est aller au contact des personnes et de se demander qu'est-ce qu'elle va faire avec une caméra quand elle est avec eux. Mmh. Le premier voyage, elle était accompagnée par une amie qui a tout filmé, tout ce qui lui arrivait. Et c'était un voyage de tourisme qui est devenu un voyage de retrouvailles avec son identité. Et là, tout d'un coup, ça devient un film d'une autrice qui se pose la question de savoir d'où je viens et qu'est-ce que je fais avec ceux que je découvre comme étant celles qui m'ont mis au monde, mais abandonnées. Non, il y avait une économie et une situation familiale et économique qui faisait que elle a eu de la chance d'être adoptée. Et quand elle revient, elle est riche dans une famille pauvre. Mm-hmm. Toutes ces questions-là, mm-hmm. c'est des repérages, mais c'est surtout une rencontre à nouveau avec les protagonistes de son film qui lui sont chers. Mm-hmm. Et en fait, elle ramène avec ça de quoi faire un film esquisse de 8 minutes qui l'amène à trouver comment elle va faire son film. Et elle refait un voyage après, mais il y a des éléments tournés dans le petit voyage qu'elle a fait avec sa copine qui filmait. Il y a ceux qu'elle a filmés pendant ce repérage, mm-hmm. qui donnent des choses très belles, où elle filme sa mère biologique lui montrant une photo d'elle-même jeune, noir et blanc. Elle la tient comme ça. Et elle-même, elle montre à sa mère biologique et à ses tantes et à ses sœurs des images d'elle petite, élevée dans les Landes. Mmh. Et elle montre ses parents adoptifs. Donc tout ça fait un espèce d'échange qui est assez vertigineux pour le spectateur que nous sommes, à voir ce film et à le découvrir. Après, il a été accompagné, il a été diffusé, il est passé sur France 3 et il a une diffusion nationale. Mmh. Et ce film a été très bien accueilli parce qu'il est une histoire magnifique. Donc les repérages font partie du tournage.
Oui. Souvent, en tout cas, c'est ce que vous essayez aussi de faire dans vos formations, quoi.
Pas forcément, parce que parfois on dit, essayez juste de savoir comment vous allez aborder l'histoire, dans quelle position vous vous mettez, à quelle place vous vous mettez. C'est un sujet dont on parle souvent en documentaire. C'est quoi ta place? Ma place, c'est celle d'aller regarder et de ne pas intervenir. Ou c'est celle d'aller casser le morceau et parler avec des gens avec qui on ne parlait pas. Il y a plein de positions.
Ouais. Ouais.
Et donc, c'est aller trouver sa position de filmeur par rapport à des gens qu'on appelle les filmés. Mm-hmm. Tout ça pour ceux qui vont regarder les spectateurs. Mm-hmm. Il y a un triangle. Hein, il y a celui qui filme ou celle qui filme. Il y a ceux qui sont filmés, puis il y a ceux qui regardent. Mm-hmm. Et celles qui regardent. Et tout ça travaille. Mm-hmm. Et l'expérience de voir des films, c'est vachement bien parce que dans une résidence. Alors ça, c'est beaucoup à Lussas, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de films là-bas qu'on peut regarder. Et donc, on voit des films tous les soirs. On fait pareil à Cyclique. Et comme ça, on parle de films qu'on voit. Mm-hmm. Et on échange sur... Ah oui, comment c'est fait ? C'est pas j'aime ou j'aime pas. Moi, je dis, nous dites pas ça, ça, on s'en fout. Dites donc comment c'est fait, comment vous entendez, comment vous regardez, comment c'est monté. Et on analyse un peu. Mm-hmm. Comme dans les gens qui font des formations de création littéraire, ben, ils lisent et ils regardent un peu comment, comment tel auteur a écrit. Mm-hmm. Voilà. Comment tel cinéaste a procédé.
Avec... Oui, puis j'ai l'impression que ça permet aussi à certains moments justement de ces idées de forme un peu préconçues qu'on peut avoir, d'arriver à les mettre de côté en voyant que d'autres arrivent à raconter des choses, des histoires, des fils qu'ils ont compréhensibles sans utiliser ben, par exemple la voix off. Mmh. Et qu'il y a des histoires qui se racontent très bien sans ça. Et du coup, ça permet vraiment de déconstruire voilà, ces idées préconçues sur... Comment est-ce qu'on raconte une histoire dans un film ? Mm-hmm. Ou comment est-ce qu'on raconte quelque chose dans un film ?
Mm-hmm. On fait une pause musicale ?
Oui, oui. Alors, cher ami.
On va écouter un extrait du film Les Petits Maîtres du Grand Hôtel de Jacques. Et donc les paroles sont de Jacques Deschamps, voilà, et la musique originale de Marie-Jeanne Serrero.
Alors, non. Les paroles sont issue d'entretiens que j'ai fait avec des élèves de cet hôtel d'application dans un lycée professionnel. Et ce sont un peu leurs paroles qui chantent. Mais c'est vrai que j'ai mis en forme leurs propos. Ouais. Mais ils chantent quelque chose qui est leur propre histoire, quand même.
On écoute.
Chignon tiré, veste croisée.
Maton rasé, t'es bien sapé.
Qui que tu sois, pas de mec qui tienne, oublie ton passé.
Nouveau départ, faut tu t'entraînes à tout effacer.
Sourire aux lèvres, ton écran qui pensait trop déplacé.
7h du mat, faut que je tienne. Courir partout en restant zen, zen.
Concentré, entêté, nettoyé, préparé.
Le client est là, ça y est, il débarque, les grands me remplacent, ça y est, je m'écarte.
La cuisine est en larmes, je me fais tout petit.
La professeure s'enflamme et me dit:
il faut la tenue, ne pas être têtu. Si tu dis tu, tout peut être foutu. C'est tes études, tu dois prendre du recul.
Le stress te tue, ton cœur est une enclume. Si tu titubes, on t'arrachera les plumes.
Café au lait ou thé sucré.
Faut s'entraîner et pas se tromper.
Chez des noiseries et des jus de fruits.
Grille les tartines, pas les œufs frits.
À la bonne table, bon repas. Prends la commande, ne te trompe pas.
Je débarrasse, il s'en va sans dire merci. Dans le débarras, je prends sa tisane, je mets du persil. Au démarrage, si tu le vis mal, faut que tu respires.
Respire, et t'auras trop un peu d'estime.
Respire, et t'auras trop un peu d'estime.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4 FM dans l'émission de l'association Ad Hoc. On a déjà traité le sujet avec nos deux invités, Sonia Benslama et Jacques Deschamps. On souhaitait parler avec vous aussi de votre place. Vous êtes vous-même réalisateur et en tant que personne tout simplement, quand on vous raconte un projet, et tu l'évoquais Jacques, on se fait tout de suite un film. Comment est-ce que vous arrivez à gérer la place de formateur qui doit faire naître le film de quelqu'un d'autre pour ne pas trop projeter votre propre film? Et voilà, comment est-ce que vous gérez ça?
Ben, c'est difficile. Mais c'est pas du tout impossible, et puis parce que moi, je trouve que les personnes qui portent un film, ça se sent, et elles occupent la place de le rêver, de le désirer. Là où c'est compliqué, c'est quand effectivement ils ont du mal à prendre cette place, comme si le sujet leur faisait un peu trop peur, comme s'ils avaient un peu trop d'a priori. Comme c'est vrai que beaucoup de projets, on lit première phrase, il n'y aura pas de voix off dans mon film. Bon, d'accord, très bien, parfait. Il se trouve que souvent, ces projets-là, quand les films sont finis, il y a une voix off. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose que la personne avait envie de dire, tu l'évoquais tout à l'heure, et qu'elle ne s'autorisait pas à le dire. Alors, moi, je ne suis pas là en tant que psy à essayer de savoir ce qui est caché. Je suis là en tant que spectateur qui désire que, là où il y a quand même beaucoup d'indices que le film a quelque chose de personnel, ça sera bien que la personne qui fait ce film personnel n'aille pas se cacher très très loin en laissant les protagonistes se débrouiller tout seuls. C'est plutôt bien qu'effectivement on sache un peu ce qu'il va regarder ou ce qu'il cherche à savoir ou ce qu'il cherche à partager avec la personne qui va filmer. Donc, moi, je projette pas, mais j'attends que quelque chose qui est dessiné, qui est quand même là, puisse être saisi par la personne qui fait le film et qui n'essaye pas de s'en dessaisir. Mmh. Et c'est ça qui arrive. C'est vrai qu'on est dans une position compliquée. Tu pourrais parler de l'Amérique parce que moi, je suis allé au Québec et j'ai vu, ils écrivent tous des projets formatés exactement de la même forme parce qu'on ne leur donne que 5 pages. En France, 15 pages pour Brouillon d'un rêve ou 15 pages pour les aides à l'écriture du CNC, ça leur paraît énorme. Et 50 pages pour un projet de développement et 120 pages pour un projet d'avance sur recette quand on dépose à l'avance sur recette un long métrage. C'est l'enfer d'écrire ça, de devenir c'est le littérateur et l'écrivain de son projet. Ils ne connaissent pas ça. Le système anglo-saxon ne procède absolument pas comme ça. Moi, j'ai fait une résidence avec une Russe qui travaille beaucoup en Angleterre, et Tania Rachmanova, et aux États-Unis, en Roumanie. Elle disait, mais vous êtes fous les Français. Qu'est-ce que c'est que ces dossiers qu'il faut écrire ? Donc, c'est sûr qu'il faut aller chercher son film, son sujet, mais que ça soit l'occasion, justement, de comment s'engager soi-même à fond pour que le lecteur ne soit pas obligé de se projeter à sa place, mais avec la personne qui écrit.
Est-ce que tu peux nous parler du coup, Sonia ?
Oui, moi je te rejoins, Jacques, sur cette espèce de distance à trouver hein, avec les gens qui arrivent avec un projet et beaucoup de doutes. On n'est pas là pour s'engouffrer, prendre les décisions à la place des gens, mais on est là pour les aider à essayer de tâtonner avec eux, ou en tout cas de faire du répondant, d'avoir du répondant à leur questionnement. Mais c'est un peu aussi en fonction des gens, quoi, en fonction des sensibilités, mais essayer de pas s'engouffrer dans les films des autres, quoi. C'est s'engouffrer, mais en même temps pas trop s'engouffrer. Enfin, c'est un peu étrange. Et effectivement, aux États-Unis, la résidence que j'ai faite, c'est un fonctionnement très différent, notamment sur ces questions d'écriture, où en fait, ce qu'on demande, c'est des paragraphes qui sont très 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 normés, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de mots maximum, vraiment avec des questions très précises auxquelles il faut répondre. En général, c'est jamais très très long, hein, et les formulaires, ce qu'ils appellent ça des formulaires, c'est pas des dossiers, c'est des formulaires qui vraiment balayent à la fois le film, mais aussi le sujet du film, aussi la réception qu'on attend du film, aussi maintenant tout ce qu'on met en place pour être sûr d'être respectueux et respectueuse face aux gens qu'on filme. Donc maintenant, il y a toute cette dimension-là qui est très très importante dans les pays anglo-saxons. Il y a des paragraphes entiers de formulaires qui sont vraiment destinés à ça, à expliquer le respect qu'on a par rapport aux gens qu'on filme. Donc c'est un système qui est vraiment très différent. Et après, c'est des formulaires. L'idée, c'est comme de toute façon, on n'est pas là pour écrire, mais on est là pour faire des films, c'est que ces formulaires, ils sont réutilisables dans la plupart des
commissions.
Ouais, des commissions. Mais là, on parle, en France, il y a de la concurrence. Dans les commissions américaines, on parle, je ne sais pas, le fonds de Sundance, je pense que pour chaque commission, ils doivent recevoir 2000, 3000 projets pour 15, 20 projets aidés. Donc on parle vraiment là de ratios qui sont, c'est encore autre chose. Mais du coup, voilà, avec ces paragraphes qui sont très, très... très normé. Alors, on se demande un peu des fois comment
se faire repérer, oui, comment être sélectionné.
C'est très difficile, mais après, il y a quand même, parce que du coup, je, je suis aussi lectrice pour des fonds américains et où en fait c'est comme les résidences d'écriture. En fait, on voit assez vite, il y a beaucoup de films qui sont de l'ordre de pas du documentaire, plutôt de la télé, plutôt des réseaux sociaux. Maintenant, il y a aussi des films où en fait on se dit bon, ça ferait peut-être une forme mais c'est pas le documentaire tel qu'on l'envisage vraiment, le documentaire cinéma tel qu'on l'envisage vraiment. Donc on peut aussi vite débroussailler, quoi.
Et est-ce que d'accompagner ces formations, ça influe aussi sur votre pratique documentaire, et en quoi, en tant que réalisateur et réalisatrice?
Moi, je sais que ça fait un peu respirer par rapport à, moi, quand je l'ai fait souvent, ça m'aide ça me donne un peu un souffle nouveau sur mes propres projets, parce que c'est ce que disait Alain Cavalier, hein, on mouline, on est très seul, et du coup, tout d'un coup, un peu ce qui se passe entre les stagiaires pendant une résidence, c'est-à-dire que il y a des choses qui se passent entre les gens, et sa pensée vient répondre à la pensée de l'autre. Finalement, pour moi, ça a fonctionné aussi un peu comme ça. Mm-hmm. C'est-à-dire que de parler des projets des autres, ça m'a aussi fait poser des questions sur mes propres projets.
Mm-hmm. Rien à ajouter.
si, c'est-à-dire que c'est très riche de sortir d'un dialogue avec des personnes qui cherchent leur sujet, leur film, leur forme. Je me retrouve devant mon ordinateur ou mon cahier et je me dis, mais là, qu'est-ce qu'il dirait? Et qu'est-ce que j'en penserais si j'étais le stagiaire? Enfin, je peux me dédoubler. Je peux lire un résumé en me disant, le résumé, c'est ce qu'il y a de plus dur à écrire.
Ah, c'est horrible.
Donc, c'est une petite forme comme ça, de 5 lignes. Il faut arriver à tout dire tout en saisissant l'esprit, le ton du film. Mais si on annonce tout d'une manière trop claire, on est à côté de la plaque. C'est pas tout à fait ça qu'il faut faire. Alors moi, les résumés, je les lis avec les yeux que j'essaye d'avoir quand je lis les résumés des autres. Je me dis, ça va pas. Ça va pas de commencer comme ça. Si on commence d'une façon totalement impersonnelle, alors qu'on fait un film assez personnel avec des questions qu'on se pose à soi-même ou dans son histoire, c'est dommage de commencer par une phrase très très générale qui est de tout temps l'homme s'interroge sur sa destinée. Ça, si on fait ça, c'est foutu dans un résumé de documentaire. Bon, si on commence en disant je suis né dans un coin paumé de France et je suis tombé un jour sur une lettre qui m'était adressée, là on commence à poser la question, il y a une énigme, et il y a un lieu, et il y a quelque chose. Et en ouvrant cette lettre, j'ai compris qu'elle ne m'était pas destinée. Donc là, il y a un autre. Et puis si on continue... lisez le résumé de récréation de Claire Simon. Alors il y a un lieu qui est formidable, c'est la scénariothèque du CNC, parce qu'on peut lire des projets, des documentaires, et on s'aperçoit, comment s'appelle le film de Dibelius qui se passe dans un véhicule qui transporte des gens qui vont soit à l'hôpital, soit recevoir des soins.
Ou ça, en France?
Oui, un film de Mathieu Dibelius qui s'appelle... Je ne sais plus. Quand on ouvre la scénariothèque du CNC, il y a un dossier formidable. Il y a 100 photos dans le dossier.
Ah oui.
Ça veut dire qu'il nous met déjà dans un espace du film qui est qu'on va être entièrement par un pare-brise dans une voiture, entièrement sur le monsieur qui conduit et parfois sur les personnes, enfants ou gens qui vont à l'hôpital psychiatrique ou qui vont faire un examen chirurgical compliqué. Il nous met dans un espace fermé qui traverse Paris. Et en fait, il a fait plein de repérages. Il a mis plein de photos. Et c'est formidable. Puis parfois, on peut lire un dossier où il y a 4 images. C'est que du récit. C'est très, très écrit. C'est presque littéraire. Et c'est très, très beau parce qu'on est dans un film. C'est pour ça qu'il n'y a pas de forme prédéterminée, si ce n'est qu'il faut tenir dans les 15 pages qu'on demande ici ou là. Et c'est pour ça que moi, j'essaie de donner un autre titre que note d'intention. Parce que sinon, je dis... de tout temps, etc. Où mon projet très personnel rejoint l'universel. Enfin, c'est des phrases creuses, quoi. Si on dit ça, d'abord, on en lit trop, des phrases comme ça. Puis si on lit trop que c'est un dispositif qui va... On en a marre des dispositifs. Même Macron, il est en train de dire comment il faut trouver le dispositif pour faire marcher la France. Moi, je dis qu'il faut enlever ces mots-là parce qu'on les trouve tout le temps. Il faut aller trouver des mots qui nous appartiennent. et au projet.
Eh bien, on va arrêter l'émission. Je vais passer la parole à Anne, qui va nous faire l'agenda du mois de janvier.
Et... Oh, vous êtes sûre que je ne peux pas poser une toute petite question? On avait préparé l'interrogation qu'on a sur le cinéma direct et le cinéma, justement, plus de dispositifs ou mis en scène.
C'est vrai.
Et on se demandait s'il y avait une mode, si on a l'impression que le cinéma direct a mauvaise presse en ce moment.
Notamment dans les festivals.
Dans les festivals, dans les résidences d'écriture, est-ce qu'il y a aussi un rejet? On se disait, il y a Varan qui continue à mettre en avant ce cinéma direct, et peut-être qu'à côté... ça se passe pas comme ça.
Moi, j'ai l'impression qu'il tient le coup, le cinéma direct, parce qu'il a une telle force qu'il a besoin d'être là. Mais les résidences, peut-être qu'elles conduisent un peu. C'est vrai que le mot dispositif, il est casse-pied, parce qu'on n'arrête pas de dire qu'il faut inventer une petite forme ou une machine qui fait qu'elle va être très singulière, cette machine-là. Alors qu'un cinéma direct, c'est un cinéma du contact et de la présence, et du temps passé avec des gens, au présent. Mmh. Et que ça, c'est formidable. Mais ça s'écrit aussi dans le rapport qu'on a au film qu'on va tourner, d'une manière très, comme ça, directe, oui.
Oui, parce qu'on a ce concept d'écriture innovante, là, depuis quelques années. Alors que moi, quand je vous entends, mais c'est juste des récits de vie, de rencontres, et tout de suite, c'est passionnant, quoi.
Et les films que j'ai vus de vous, alors j'ai pas tout vu, évidemment, mais j'ai vu donc le film sur les jeunes qui font...
L'accroche et la chute
sur les jeunes qui font leur formation aux journalistes. J'ai vu Mashtat. Dans les deux cas, est-ce que vous diriez que c'est du cinéma direct? Pour moi, oui, mais... Donc voilà, donc en fait, c'est intéressant de voir que, en fait, heureusement, enfin pour moi, de mon point de vue, ça continue à exister. Mais c'est vrai qu'on a l'impression, effectivement, qu'il faut avoir un petit quelque chose en plus, souvent. En tout cas, dans certaines commissions, dans certains festivals, la plupart quand même. Voilà, je sais pas ce que.
Je crois que c'est comme le dispositif, il faut éviter de dire qu'on va faire du cinéma direct. Tout en s'attachant bien à en faire. Mais il suffit de ne pas le dire, et puis comme ça, on échappe à ce qui serait le courant qui est un peu contre. Il faut un peu ruser, à vrai dire. Mais ruser pour aller au plus juste. Ce n'est pas ruser pour faire le malin, c'est ruser pour éviter de tomber dans des formes trop qui ne seraient plus les bonnes. Non, je crois qu'il faut être au plus juste de ce qu'on va faire.
Voilà, et du coup, je reprends la parole pour notre agenda documentaire de ce mois de janvier 2025. Le premier samedi d'Adoc de l'année, samedi 11 janvier à 11h, au cinéma Luminor Hôtel de Ville. Le cinéma toujours menacé de fermeture, on espère bien un dénouement en 2025. Ce sera le film « Ici, on creuse » d'Eva Penaud, suivi d'un débat animé par Cathy Dubois, dans la cité du Gros Saule, à Aulnay-sous-Bois, en banlieue nord de Paris, un de ces territoires abandonnés de la République, les habitants confrontés à un quotidien plein de difficultés ne baissent pas les bras et prennent en charge leur quartier. D'autres projections de films documentaires ce mois-ci, à commencer par Socoristas, le film de Caroline Kim Morange que vous venez d'entendre ici dans ce studio. Les Socoristas, ces militantes qui aident par téléphone d'autres femmes à avorter en Argentine dans les années 2018-2020, alors que la légalisation de l'avortement est en plein débat. Nous avions discuté de son film avec Caroline en juillet 2023 dans notre émission. On a déjà traité le sujet qu'on avait intitulé « IVG, un droit ». Vous pourrez donc voir Socoristas ce mois-ci trois fois. Le 12 janvier à 17h à la galerie Artivistas, 35 rue Blanche, Paris 9e. Le 16 janvier à 19h à la maison des réfugiés et médiathèque James Baldwin, Paris 19e, dans le cadre du dispositif d'Adoc Indocu près de chez vous. Et le 17 janvier à 19h à la librairie Anarchiste Publico, à l'initiative de l'émission Remue-Ménage féministe, en partenariat avec notre émission, on a déjà traité le sujet. Dans le cadre de ce dispositif d'Adoc, un docu près de chez vous, avec lequel nous proposons d'accompagner nos films dans toute l'Île-de-France pour des publics qui n'ont pas forcément accès au cinéma documentaire, Vous pourrez voir aussi le film Les Blanches Terres de Amélie Cabossel le 28 janvier à 14h au club senior Robert Blache dans le 10e.
Un film qui fera l'objet d'une émission très prochainement avec nous sur... On a déjà le sujet.
Tout à fait. Eh ben, c'est parfait. Sinon, un film dont vous avez déjà beaucoup entendu parler et de son réalisateur aussi, Daniel Kupferstein, c'est Béziers, l'envers du décor. À travers ce film qui aborde le journal municipal, le journal de Béziers, la gestion de la ville par Robert Ménard, élu maire en 2014 avec les voix du Front National, une vision de l'extrême droite au pouvoir dont on a bien besoin. Mardi 7 janvier à 19h au Centre culturel Jean Cocteau, 35 place Charles de Gaulle au Lila, en présence de Daniel Kupferstein et d'un ou une intervenante de la Ligue des droits de l'homme, LDH, de Bagnolet. Donc, il faut que j'abrège parce qu'on arrive à notre heure de fin d'émission. Écoutez, voilà, il y a le FIPADOC du 24 janvier au 1er février à Biarritz, vous cherchez sur le site, il y a quand même... une intervention de la boucle documentaire qui fête ses 10 ans le 29 janvier à 16h. Et ça, c'est très important. La boucle documentaire, c'est une fédération d'associations de cinéastes dont Adoc fait partie. C'est dans toute la France, dans toutes les régions, pour se réunir, pour défendre ensemble ce cinéma documentaire. D'autres informations que je n'ai pas le temps de vous donner, vous allez voir sur le site d'Adoc, adoc.net. Et je passe l'antenne à Michel pour son mélange. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne année et au mois prochain pour une nouvelle émission.
Et merci beaucoup à nos invités d'avoir été présents aujourd'hui.
Merci à vous.
À vous.